Bonjour à tous. D'abord, moi, ça me fait très plaisir de venir présenter ce travail avec Henri de Marathon Recherche, parce que jusqu'à présent, on a beaucoup travaillé avec les matheux, et donc on s'est beaucoup intéressé aux apports que ce dispositif pédagogique pouvait avoir en termes d'apprentissage des mathématiques, et en particulier au niveau de choses qui sont un petit peu difficiles pour les élèves, c'est rentrer dans le jeu de la démonstration des mathématiques. Alors ça me fait très plaisir de pouvoir en discuter avec des gens qui ne sont pas forcément matheux, qui n'ont pas toutes vos origines, mais d'avoir un point de vue différent, et en particulier un point de vue sur l'écriture. Donc ce qu'on va faire ici, c'est présenter à deux voix. Donc je vais essayer d'introduire un petit peu ce que sont les narrations de recherche. Ensuite, Henri va vous montrer pratiquement comment ça se passe dans les classes. Et puis ensuite, ce que j'aimerais bien, c'est que ça se termine par une discussion. C'est-à-dire que vous aussi apportiez des choses. On ne va pas parler pendant une heure. Et ce sera bien de pouvoir arriver à discuter et savoir ce que ça peut amener. Ce que ça peut amener du côté de l'écriture, ce que ça peut amener du côté des mathématiques et d'autres choses, et le développement des compétences des élèves. Alors, j'ai commencé par deux extraits. Le premier, c'est ça, c'est cet extrait. Un soir, je pris du café noir, contrairement à mon habitude, je ne pus m'endormir. Les idées surgissaient en foule. Je les sentais comme se heurter jusqu'à ce que deux d'entre elles s'accrochassent, pour ainsi dire, pour former une combinaison stable. Le matin, j'avais établi l'existence d'une classe de fonctions fuchsiennes, celle qui dérive de la série hypergéométrique. Je n'ai plus qu'à rédiger les résultats de ce qui nous prit quelques heures. Donc ça, c'est typiquement quelque chose qui nous intéresse. C'est raconter comment c'est arrivé. Raconter, alors, je passe les détails, il n'y a aucun intérêt de savoir ce que sont les fonctions fuchsiennes et les séries hypergéométriques. Ce qui est, c'est Henri Poincaré, dans Sciences et méthodes, j'ai pris cet extrait, mais je pourrais en prendre plein d'autres, qui décrit très précisément les moments. Comment les idées lui arrivent et comment il arrive à faire des mathématiques, à créer des mathématiques. Alors le deuxième extrait, c'est
Entering a dark mansion. One goes into the first room and it's dark, completely dark. One stumbles around, bumping into the furniture. And gradually you learn where each piece of furniture is. And finally, after 6 months or so, you find the light switch, you turn it on, and suddenly it's all illuminated. You can see exactly where you were. At the beginning of September, I was sitting here at this desk, when suddenly, totally unexpectedly, I had this incredible revelation. It was the most important moment of my working life. Nothing I ever do again will.
Donc ça, c'est un deuxième extrait, c'est Andrew Wiles, donc un mathématicien contemporain, qui raconte lui aussi. Alors cette fois-ci, c'est pas écrit. En fait, il l'a écrit aussi dans un livre d'interview. Mais c'est oral, mais il raconte et il se remémore, et je trouve ce moment absolument extraordinaire, où il se rappelle le moment où enfin il a compris qu'il avait trouvé. Il a démontré là un théorème dont le résultat était conjecturé depuis le XVIe siècle par Fermat, et donc ça fait 4 siècles que les mathématiciens cherchaient à essayer de démontrer ce résultat, et au XXe siècle il l'a démontré, et il explique ce moment extraordinaire. Alors voilà, c'est deux extraits qui nous paraissent très emblématiques de ce qu'on voudrait faire aussi vivre aux élèves dans les classes. Et à faire des mathématiques, c'est pas réciter des leçons, réciter des choses très austères et être d'une rigueur absolue, c'est aussi oublier de boire trop de café et puis donc j'ai oublié obligé de réfléchir ensuite à partir de ça, ou bien devant son bureau, j'aime bien le bureau de
c'est significatif.
Alors, ce qu'on va faire, c'est présenter les narrations de recherche, c'est-à-dire revenir au niveau de la classe, et puis prendre un exemple, des exemples, plutôt, on aurait pu mettre en S ici, avec cette idée de regarder sur un même élève, et puis plusieurs narrations, pour essayer de voir justement comment ça évolue. Alors, on n'aura pas le temps de regarder tout en détail, mais c'est un peu le travail qu'on a essayé de faire avec Orbi, c'est de suivre et de se dire, évidemment, qu'est-ce qu'ils apprennent comme mathématiques, mais aussi comme compétences au-delà des mathématiques, et en particulier en termes d'écriture. Et puis, conclusion, discussion, parce que c'est plutôt une discussion, et puis en même temps, ce n'est pas une conférence que je fais, donc s'il y a des moments où vous voulez intervenir et Alors, premier aspect, on rentre un petit peu dans les narrations de recherche. On part d'un constat au départ, la démonstration, le jeu de la démonstration, c'est quelque chose qui est crucial au niveau du collège, et c'est quelque chose qui est difficile, qui est excessivement difficile. Et alors, nous, on a travaillé plutôt sur des publics défavorisés dans les collèges de ZEP. Et pour les élèves de ZEP, il y a une accumulation de la difficulté. Une accumulation parce qu'ils maîtrisent moins bien le langage, et puis parce que en termes de culture, rentrer dans cette culture mathématique, c'est pas forcément très facile. Alors, un des outils qui m'a semblé être intéressant de mettre en place, c'est donc ces narrations de recherche, la narration de recherche, où on veut très clairement distinguer le temps de recherche d'un problème, le moment où on va chercher, où on va créer des mathématiques, où les élèves vont créer des mathématiques, et puis le temps de communication de ces mathématiques. Donc il y a une distinction de l'un à l'autre qui est faite, et en particulier on essaie de jouer sur la démonstration, c'est pas un carcan. Arriver à une démonstration, c'est le résultat d'une imagination, de l'imagination créatrice qui est mise en place. Et donc, évidemment, ça joue sur une prise d'initiative des élèves. Ça valorise les raisonnements qui sont peut-être pas justes. Non, c'est pas ce que je veux dire.
Valorise
les raisonnements qui sont peut-être pas ceux qui vont mener à la solution ou à la découverte de la solution du problème, mais qui sont quand même des raisonnements et qui sont non négligeables. Et puis, ensuite, ça va mettre en œuvre des règles de communication, puisque d'écrire tout ça. Alors, les narrations de recherche, au départ, ça a été créé par
Mireille Sauter de Montpellier.
De l'IREC de Montpellier, oui. Donc Mireille Sauter, en particulier, et l'équipe de l'IREC de Montpellier, l'Institut de recherche sur l'enseignement des mathématiques, et donc qui était dans des conditions un petit peu identiques aux nôtres, c'est-à-dire dans les collèges de Montpellier. Mais ce qu'elle disait, c'est qu'il s'agit de faire raconter par l'élève lui-même la suite des actions qu'il a réalisées au cours de la recherche de solution d'un problème. Et elle signalait tout de suite qu'il y avait un nouveau contrat qui se passait avec l'élève, c'est-à-dire que l'élève s'engage à raconter ce qu'il fait du mieux possible, toutes les étapes de sa recherche, ses erreurs, ses fausses pistes. C'est pas simplement raconter, donner le résultat final qui amène le résultat, mais toutes les erreurs. Et puis, en échange, il y a aussi un changement du côté du professeur, c'est-à-dire que lui, il ne regarde pas simplement la solution du problème, mais plutôt toute la démarche qui a été mise en place et la façon dont les élèves le racontent. Voilà, donc les narrations de recherche, c'est chaud de course. C'est un peu trop vite. On a donné ici quelques exemples de narration de recherche. Exactement. Alors, c'est pour dire que ce sont des problèmes dont on sait pour. Vous voyez ici, c'est là-dessus, il y a trois narrations de recherche. Dont l'énoncé est court, qui est très ouvert, c'est-à-dire qu'il y a une question, mais qui peut s'interpréter de façon différente. différentes. Et par exemple, alors celle qui est là-bas, puisqu'elle va c'est être illustrée, étant donné quelques points placés sur une feuille, donne une méthode pour savoir combien on peut tracer de segments différents, joignant deux quelconques de ces points. On met des points sur la feuille, et puis on trace les segments, et puis on essaie de compter combien il va y avoir. Donc vous voyez que le problème est très simple d'accès. Et ça, c'est une volonté, c'est les problèmes qu'on essaie de mettre en place. Ce sont des problèmes qui sont a priori que les élèves. Il va y avoir des procédures possibles pour les élèves. En particulier, là, il y a des procédures expérimentales. On met deux points, puis on trace, ben, ça va faire un segment. Si je mets trois points, qu'est-ce que ça va faire? Et si je mets. Et voilà, quel est le résultat d'un illustré par un élève qui a essayé de compter. Alors, quand on voit le dessin comme ça, on dit là, c'est magnifique. Est-ce que vraiment derrière il y a un raisonnement? Et vous voyez que si on n'avait que le résultat tel que je vous le montre ici, il est impossible de savoir si cet élève s'est mis sur la feuille et puis il a tracé mécaniquement des segments entre les points, ou s'il a mis en place un raisonnement qui lui permettait d'arriver à une méthode, si j'ajoute un point, combien il va falloir de segments. Et c'est en ce sens que la narration de recherche va nous aider à savoir où en sont les élèves. Est-ce que c'est simplement un point de... Alors, je te laisse.
Oui, alors, peut-être aussi ajouter qu'une figure raconte aussi. Et qu'on fait feu de tout bois pour essayer de comprendre les démarches de l'élève. Et donc, effectivement, dans des figures, l'élève raconte aussi des choses. Donc, un des objectifs aussi, c'est à partir de figures, on donnera quelques exemples, d'essayer de faire raconter la figure aussi que l'élève a construite. Parfois, ça peut être un moyen de démarrer un dialogue avec les élèves. Alors, peut-être pour le problème, juste avant, là, il y en avait un autre aussi qui est intéressant. Encore avant, voilà. Celui qui est en bas à gauche, c'est un problème de Fibonacci du 12e siècle. Donc, voilà, donc qui a été remanié, puisque là, on parle de maître. À l'époque, il ne parlait pas de maître, mais c'est un joli problème de Fibonacci. Et c'est l'occasion aussi, dans ce type de problème, de se poser la question de la modélisation d'un problème. Et là... Si on laisse ouvert la situation, on s'aperçoit que les élèves font des choix tout à fait naturels, j'ai envie de dire. Donc ils prennent des immeubles pour des vrais immeubles, donc ils ont une épaisseur. Le puits qu'on doit chercher, ben, il a une vraie épaisseur, il a une hauteur aussi. Ce qui est très proche d'une modélisation assez poussée finalement. Et on s'aperçoit qu'il y a effectivement le choix d'utiliser par exemple... deux immeubles avec deux segments et puis un puits avec un point et en fait vraiment quelque chose de très très poussé, hein, donc voilà. Donc il y a des choses qui sont extrêmement intéressantes en termes d'ouverture et d'espace possible dans les démarches. Donc en fait du coup je vous parle de ça pour vous dire que ça a peu de sens de dire par exemple sur le problème de Fibonacci il y a une seule solution puisqu'elle dépend du modèle que vous allez choisir. Et donc, du coup, ça ouvre beaucoup de possibles et on rend compte aux élèves que ben, y a pas qu'une seule façon de prendre à bras-le-corps un problème. Voilà. Alors, je vais vous présenter quelques... Alors, c'est vraiment très, très modeste parce que on a peu de temps. Donc, c'est pour vous donner une idée. Donc, on va vous présenter trois élèves. Et pour chacun, on va présenter une idée forte. Alors, pour Intissar... Alors, Cindy d'abord, on va commencer par Cindy. Donc, épanouissement de la pensée. Donc, c'est une élève qui avait une représentation des mathématiques où elle se disait, bon, je suis nul. Hein, donc, c'est ce qu'elle me disait, je suis nul, j'y arrive pas. Et donc, la toute première narration qu'elle a pu proposer, donc là, le problème, c'était, pour vous donner une idée, on se donne trois points dans le plan, comme on veut, et il s'agit de tracer un triangle équilatéral qui passe par ces trois points. Donc une contrainte assez forte qui est pas évidente. Et donc on va voir peut-être la première copie de Cindy. Donc ça c'est la toute première narration qu'elle a pu écrire. Donc je sais pas si vous arrivez à lire, sinon je peux vous lire au moins le début, hein. J'ai tracé les trois côtés du triangle, mais ce n'était pas un triangle équilatéral, car un triangle équilatéral a trois côtés égaux. Comme le premier ne voilà, comme le premier ne pouvait pas être un triangle équilatéral, j'ai allongé la droite AB, la droite BC et la droite AC. Vous avez vu que parfois elle fait le choix de mettre le mot droite, parfois elle ne le met pas. Parce qu'effectivement, quand on met des parenthèses, ça signifie droite, en fait. Hein, ce qui crée des pléonasmes, des fois, quand on devrait lire la droite, droite BC, en fait. Puis j'ai mis à la même mesure, c'est-à-dire 5 cm, donc c'est un triangle équilatéral, et enfin, etc., donc j'ai trouvé. Donc vous voyez là, ici, sur cette copie, qui est relativement succincte, hein, quelques essais qu'elle s'est autorisée, on sent qu'elle n'a pas osé s'engager plus, et des verbes qui nous disent vraiment que c'est des gestes, on est vraiment dans le motriciel. Hein, c'est vraiment j'ai tracé, j'ai fait, on a vraiment quelque chose qui est de l'ordre du geste, geste moteur. Et donc l'idée c'est qu'il y a à peu près une narration par mois qui est donnée. Hein, oui. je fais des sauts. On y reviendra, Aurélien. Et donc là, une par mois environ. Et là, celle que vous allez voir, elle doit dater du mois de mars ou avril, quelque chose comme ça. Donc ça doit être la cinquième ou la sixième qu'elle a produite. Et donc là, je ne vais pas tout vous lire, mais vraiment, en fait, elle explose. C'est-à-dire qu'elle libère complètement sa pensée. Elle s'autorise énormément de choses. Donc là, le problème était un peu plus détaillé. Il y avait plus de données, donc je ne vais pas le décrire. Mais elle va le tester sur des tas de triangles. Triangle isocèle, triangle équilatéral. Elle va aller chercher des théorèmes qui sont dans des boîtes à outils qu'on a construits par ailleurs. Enfin, la démarche s'est vraiment transformée. C'est-à-dire de ces gestes motriciels qui étaient vraiment ce qu'elle mettait en avant dans sa toute première narration. On évolue vers des gestes de la pensée où là vraiment elle va essayer de décortiquer le problème. Voilà. Et avec des aspects très réflexifs. Donc elle dit ce qu'elle utilise, que ce soit au niveau des théorèmes, mais aussi au niveau des outils géométriques. Par exemple, à la fin, elle vous dit « j'ai utilisé l'équerre » ou des choses comme ça. Est-ce que vous voulez que je vous en lise pas de problème. Alors, par exemple, elle dit « pour trouver la solution, il faut que je fasse des types de triangles différents ». Donc là, déjà, on rentre dans quelque chose qui est un peu différent du geste moteur « j'ai tracé ». Hein, c'est, je vais faire appel à une catégorie de triangles. Voilà. Donc là, il y a déjà un palier en termes de démarche. Essayons avec un triangle isocèle. Déjà, ce triangle est isocèle en B, car c'est le sommet. Théorème du triangle isocèle. Si un triangle est isocèle, alors ses deux côtés consécutifs sont égaux. Et non, malheureusement, ça ne marche toujours pas. Donc voilà, elle donne toutes les mesures qu'elle a mesurées sur le conclusion. Donc non, le segment AI n'a pas la même mesure que IJ... voire codage. Et aussi, le segment AB égale au segment BC égale 300 mètres, car c'est un triangle isocèle. Il y a aussi des angles opposés par le sommet, mais je l'ai déjà mis sur les figures précédentes. Voilà. Rien que sur ces petits extraits, on voit qu'elle elle utilise donc ce fameux théorème, elle l'utilise, et puis elle essaie d'y voir des propriétés. Elle parle des côtés opposés, égaux, chose qu'elle n'arrive pas forcément, vous voyez, à utiliser, mais elle y pense. Et ça, quand on voit par exemple la première recherche, on n'était pas du tout dans ce registre-là. Elle n'était pas du tout dans un aspect réflexif où elle allait chercher des propriétés. Elle a mentionné que le triangle équilatéral avait trois côtés égaux, effectivement, mais elle ne s'est pas autorisée à aller plus loin. Alors chez Cindy, c'était très très clair. Hein, c'était donc elle avait beaucoup d'affect et puis par rapport aux maths, elle avait un rapport assez dur. Hein, donc effectivement, elle était toujours dans ce, elle tournait toujours autour du pot, Cindy. Voilà, donc elle avait toujours cet aspect affectif où elle, oui. Alors en fait, le problème ici, c'est un problème où on cherchait à savoir si un point était toujours le milieu d'un segment pour tous les triangles possibles qu'on pouvait construire. Et en fait, on peut pas. Donc, pour arriver à le démontrer, il fallait utiliser. Enfin, il fallait. On pouvait utiliser. Ça marchait bien comme ça. Ce qu'on appelle un raisonnement par l'absurde. Voilà. Et donc, du coup, elle est confrontée en fait à la multitude d'exemples qu'elle va traiter, et qu'elle va triturer pour essayer de démontrer que. Enfin, essayer de bien se rendre compte que ça marche pas. Complètement, et elle va être très productive. Hein. C'est pas toujours comme ça, effectivement. Hein. C'est-à-dire que là, elle accepte le jeu de raconter qu'elle peut être dans l'impasse ou qu'elle ne trouve pas. Mais ça se passe pas toujours comme ça. Alors, ça remonte à 2007. Je n'ai pas souvenir, mais je crois pas que c'était un problème pour elle, effectivement, l'écriture dans les autres disciplines. Et là, effectivement, pour elle, ça a été un révélateur, c'est-à-dire que ça a été plutôt un appui. L'écrit, elle lui a vraiment permis de libérer sa pensée. Et l'obstacle était vraiment là, du coup, même pas tant mathématique, parce qu'elle avait énormément d'idées et elle développait énormément de stratégies, mais peut-être dans ce qu'on parlait, où on parlait tout à l'heure de carcan, peut-être dans les modèles mathématiques qu'elle a pu rencontrer, enfin en tout cas les modèles d'apprentissage où elle s'y retrouvait pas. Et donc du coup, elle voyait pas très bien comment avancer dans cette façon de faire. Bien sûr, mais là justement, il se passe énormément de choses et c'est ce qui est mis en valeur. C'est-à-dire le fait, par exemple, qu'elle ait ses retours réflexifs et qu'elle va chercher dans ses boîtes à théorèmes et qu'elle va constamment essayer de faire revenir de la théorie. Là, voilà. Hein, il y a...
Chercher les outils.
Comment ?
Chercher les outils.
C'est voilà, exactement. Oui, c'est absolument pas évident. Hein. On le voit bien sur la première leçon. Hein. C'est pour ça que j'ai voulu vous montrer les deux temps. On pourrait en montrer d'autres temps. Quand le contexte est différent, par exemple, là, ça ressemblait quand même pas mal à la géométrie classique qui est faite au collège. Mais dans l'autre problème qui était en bas à droite, sur la géométrie du cube, où il fallait trouver des points à 15 cm d'un cube de 10 cm d'arête, c'était complètement nouveau pour elle. Elle s'est retrouvée un peu dans l'expectative. Elle pouvait pas raconter autant qu'elle a pu raconter dans cette narration. Mais pourtant, elle avait bien cultivé cette idée que il y avait des idées, qu'on pouvait en parler, que c'était pas forcément dramatique de pas aboutir. Le cas d'Andrew Wiles est pertinent parce que Andrew Wiles, pour avoir trouvé sa démonstration, il s'est appuyé sur des tas de résultats intermédiaires qui étaient fondamentaux. Tout à fait. C'est pour ça que Gilles a bien évoqué tout à l'heure la rupture de contrat. Il y a une rupture de contrat qui est forte, qui est pas simple, parce que là, on peut dire que Cindy s'est réussie. Elle rentre vraiment dans l'écrit et ça lui permet vraiment de libérer sa pensée. C'est pas toujours le cas, effectivement. Il y a des élèves qui ne rentrent pas par l'écrit facilement et sur le coup, on rajoute un deuxième obstacle d'une certaine manière. Hein, donc, effectivement, c'est pas la solution à tous les problèmes. Et alors, il y avait deux... Tout à fait. Par exemple, dans mon établissement, effectivement, petit à petit, il y a certains collègues qui essayent d'introduire les narrations de recherche, et c'est pas évident. Et c'est pas évident aussi, par exemple, de travailler avec les collègues de français, parce que c'est un objet étrange, c'est un objet hybride en fait. Et dans tout objet hybride, on y voit des tas de choses, et on se dit oulala, mais je sais pas trop comment m'en saisir. Et la difficulté, elle est là. C'est-à-dire que il y a un deuil à faire, et le deuil à faire, c'est d'accepter qu'on va pas tout pouvoir prendre en main la situation, et qu'il y a des tas de choses qui vont nous échapper, qu'il y a des tas de choses qui vont bifurquer, qui vont partir dans des directions dans lesquelles nous on pourra pas intervenir et qui vont peut-être rester dans l'oubli malheureusement, et ça c'est pas facile à accepter. C'est-à-dire qu'on perd largement le contrôle de la situation de recherche chez l'élève. Tel qu'on l'introduit, on l'introduit comme un écrit donc pour raconter pour l'élève. Donc on peut le voir effectivement comme une sorte de journal. Ils ont un temps de recherche en classe où la recherche démarre en classe. Elle peut démarrer par des travaux de groupe ou de manière individuelle. Donc ça c'est pour les inviter à rentrer dans la recherche déminer, j'ai envie de dire, la consigne aussi, hein, pour bien comprendre les éléments de l'énoncé. Et ensuite, ils ont, en général, c'est variable, une semaine à la maison pour commencer à raconter ce qui s'est passé finalement au début de recherche ou continuer la recherche à la maison. Sauf que là, encore une fois, on n'a plus la main. Donc il se passe des tas de choses. Vous avez des élèves qui, la veille où il faut rendre le travail, vont commencer à dire quelque chose ou à raconter quelque chose. Vous en avez certains qui vont raconter quotidiennement ce qui va se passer. Il y en a qui vont vous indiquer des moments vraiment, des chronologies. Le mardi soir, j'ai commencé à 19h, etc. Vraiment, il y a du coup... Même si le contrat essaie de bien dire, bon ben raconter, essaie de donner toutes les étapes de votre travail, les élèves ensuite face au travail, ils ont des tas de stratégies différentes et il y en a qui rentrent vraiment comme Cindy dans cet aspect, j'ai envie de dire journal, où ils vont vraiment raconter leur démarche, et puis d'autres pas du tout, hein, ils vont rentrer tout de suite peut-être déjà dans une procédure, vous dire une méthode et puis ça va ressembler beaucoup à un compte rendu de recherche. Alors, au fil un peu des années, on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait des profils en fait d'apprenants, et donc aussi des profils de chercheurs. Et vous avez des élèves qui, alors je ne sais pas si on peut dire bon, meilleur, je ne sais pas trop comment on pourrait catégoriser cet aspect-là, mais en tout cas, vous avez des élèves qui rentrent très facilement dans la narration parce que ça correspond plutôt bien à leur profil. À leur façon d'apprendre, c'est-à-dire pour apprendre, j'aime bien dire ce que je pense, donner mes opinions, donner mes sentiments. Donc, il y a des élèves qui vont rentrer très facilement. Exactement. Et donc du coup, mais c'est intéressant parce que du coup, c'est un peu le contre-pied de la narration de recherche. Ça permet aussi d'essayer de trouver aussi d'autres entrées pour des élèves qui ne rentrent pas facilement dans la narration parce que effectivement, ils ont besoin qu'on leur détaille aussi les étapes, voilà. Et donc du coup, il peut avoir comme ça des résistances assez fortes. Même pour des bons élèves entre guillemets, après je vous laisse la parole. Vous avez des profils que j'appelle explorateurs. Et c'est des élèves qui aiment beaucoup, qui sont très autonomes, qui font peu de cas de ce qui se passe autour d'eux et qui foncent tête baissée dans leur exploration. Qui font peu référence aux théories. Voilà, qui sont là. Donc ils avancent exactement. Alors, on peut les appeler simultanés. Je trouve que le terme effectivement est extrêmement intéressant. Et ils avancent. Ils font des lignes, des schémas, des liens entre des différentes idées qu'ils ont trouvées. Et c'est des élèves qui dans la recherche sont très épanouis. Vraiment, ils sont très libérés. Puis ils vont très très loin. Par contre, quand il s'agit d'écrire, et ça on le retrouve chez des mathématiciens qui adorent chercher et qui pourraient écrire un compte rendu ou un compte rendu de recherche, c'est la croix et la bannière, quoi. Alors voilà, il y a deux questions. Alors, pour la valorisation, finalement c'est pas très compliqué puisque dans le compte rendu on personnalise. On va prendre quelques extraits de copies qui vont nous intéresser parce que il y a une prise d'initiative, parce que l'élève a mis en œuvre une idée ou un théorème qu'il a essayé de mettre voilà, compte rendu collectif. Donc en général, moi j'ai jamais eu de problème à ce niveau-là, les élèves sont très fiers d'avoir leur petit extrait de copie et d'avoir leur nom. Et du coup, nous, ça nous permet de mettre en avant tous ces effets positifs. Et il y a des effets ensuite, j'ai envie de dire, des effets tache d'huile, où les élèves, des fois, reprennent des idées en disant « Ah oui, mais là, ça a été mis en valeur, donc du coup, moi, je vais le faire aussi. » Donc, on a ces phénomènes qui apparaissent. Et puis, la deuxième question... Donc, des comptes rendus, il y en a tout au long de l'année. Hein. Donc, du coup, il y a toute une évolution, il y a des reprises, il y a des choses qui sont redites. Parfois telles quelles pour permettre aux élèves de bien s'imprégner aussi des attentes et au niveau des notations c'est très intéressant parce que moi au tout début je dis plus correction parce que correction c'est mettre droit ensemble et c'est pas évident donc mon objectif en narration c'est pas de mettre droit ensemble mais c'est très intéressant parce qu'au début j'étais dans le récit puis j'écrivais au cœur de la narration. Et petit à petit, je me suis déplacé sur la marge, et mes annotations sont sur la marge, de plus en plus. Alors, je sais pas si pour les collègues de lettres, ça a toujours été comme ça, mais moi, je me suis vu sortir de l'écrit de l'élève en disant, de même quand je scanne mes copies, au départ, je scannais, la toute première, vous avez vu mes annotations, maintenant, je les scanne d'abord sans mes annotations, et ensuite, j'annote. Et en fait, c'est extrêmement important parce que c'est une mémoire hein, que je construis pour la classe, qui fait que bon bah c'est présent et que on peut y revenir aussi. C'est-à-dire que parfois, comme je vous disais, il y a des deuils à faire. Et un peu plus tard, quand on a discussion avec l'élève ou quand on a discussion avec les parents aussi, c'est possible. On peut faire comme je vous montre ici, c'est-à-dire montrer une copie au début d'année et une copie en milieu d'année pour voir des évolutions et pour marquer des choses positives. Et donc du coup mes annotations donc là c'est tout à fait personnel pour beaucoup, mais alors elles sont reliées par des critères de réussite, hein, de compétences, qui donc ça peut être des critères d'expression, si on comprend bien ce qui est dit. Il y a des critères de pistes de recherche, par exemple, des prises d'initiative, comme on l'a dit, des critères sur la démarche logique, donc des enchaînements, des voilà, ça va être parfois une petite phrase pour impulser quelque chose qui s'est bien passé, où on a l'impression que vraiment il y a une logique qui s'est mise en ordre, etc. Alors, un de nos objectifs, c'est justement, peut-être qu'on va montrer sur la copie d'Intisar, ça peut être intéressant, de passer des registres extrinsèques au savoir à des choses qui sont cruciales pour nous. En mathématiques, c'est la démonstration. Là, on est en quatrième. Donc, des registres extrinsèques au savoir, des registres intrinsèques. Et donc, tout le jeu, c'est de partir donc de ces démarches personnelles et de leur montrer petit à petit que dans ces germes d'idées, dans ces débuts d'écrits, ils portent en eux des concepts forts, importants. Et donc, l'objectif, c'est de les emmener petit à petit à sortir aussi d'eux-mêmes vers les registres intrinsèques. Donc là le cas d'Intisar est extrêmement intéressant. Donc c'est une élève qui était beaucoup en référence avec l'extérieur, donc avec son papa, avec ses frères et sœurs, avec moi-même, avec le professeur, et qui avait besoin de se rassurer constamment. Moi, au début, j'ai pensé que ce n'était pas un tableau de proportionnalité. Maintenant, je pense qu'il faut utiliser le tableau de proportionnalité. Je vais essayer. Au début, je pense que je ne vais pas faire le produit en croix. Pour l'instant, j'y arrive. J'ai demandé à ma mère si je pouvais faire le produit en croix. Elle m'a dit qu'elle ne savait pas. Le tableau en croix ne marche pas. Ma mère m'a dit de le faire à la main. Mon frère m'a dit qu'il y avait déjà fait. Je pense que j'ai trouvé la solution. J'ai essayé sur le point 12. Je compte les 6 du bas, ça fait 19 segments, et le haut, c'est comme le bas, donc j'ai fait 19 plus 19, 38 plus 2, les deux côtés, égale 40 plus 6 fois 6, égale 36, 36 plus 40, égale 76. J'ai fini sans prendre de pause, je me suis fait aider par mon frère. Donc là, c'est très très net au niveau de son domaine de validation. Il est tout le temps à l'extérieur et là c'est la famille qui est présent. Et ça a duré un temps assez conséquent. Vraiment, ça a duré très très longtemps. Et mon travail, ça a été vraiment d'essayer de la rassurer, de lui dire qu'elle était tout à fait capable, qu'elle pouvait aussi essayer des choses toute seule sans qu'elle fasse forcément référence à ses parents. Et il y a une narration, une fois, elle a conclu, alors je sais plus c'est à quel moment de l'année, je crois que c'était en janvier-février, où elle dit « Maintenant, quand je n'y arriverai pas, je demanderai à mon père. » Et la narration qui a suivi, le papa était bien en peine de l'aider parce que c'était impossible de rentrer dedans, enfin pour lui apparemment. Donc du coup, elle était vraiment un vrai obstacle épistémologique, j'ai envie de dire. Et donc du coup, ça a été une très bonne chose en fait. Et je vais vous montrer là donc une narration qui date donc de la fin de l'année, du mois de mai. Donc ça tombe bien parce que là on a des flocons de neige. Donc c'est ce qu'on appelle le flocon de corps. Alors vous prenez un segment, vous le partagez en trois, et sur la partie centrale vous mettez un triangle. Donc ça fait quelque chose comme ça, vous voyez. Et puis vous recommencez la procédure sur chaque segment. Hein. Donc vous obtenez quatre segments, d'accord. Et sur chaque segment vous recommencez la procédure. Donc vous prenez le premier segment, vous le partagez en trois, vous enlevez la partie centrale et vous remettez un petit triangle. Vous prenez le deuxième segment, vous partagez en trois, vous mettez un petit triangle, etc. Et vous faites ça à l'infini, voilà. Merci Gilles. Et vous obtenez ce qu'on appelle un fractal. Hein, si vous faites la symétrie, vous obtenez un joli flocon de neige qu'on appelle le flocon de corps, un corps qui était un mathématicien. Et donc là, le travail, c'était d'abord de dessiner cette figure pour, on appelait ça des générations. La génération 0, hein, le segment, génération 1 avec la première bosse, génération 2, et puis on se demandait à la génération N, quelle est la longueur du segment. D'accord? Alors, on montre que la longueur, elle est infinie, en fait. C'est-à-dire qu'elle est non bornée. C'est-à-dire que plus N augmente, plus la longueur, augmente, et en fait, elle ne s'arrête pas d'augmenter, et pourtant, elle est bornée entre deux points, hein, donc on pourrait croire qu'elle est finie. Et donc, Intisar, ici, vraiment, il y a une réorientation de la pensée, c'est-à-dire que, comme je vous avais montré sur les premières copies, elle était vraiment orientée sur ce que pouvaient dire les autres,
Et là, elle se centre complètement sur une démonstration. Alors, elle est fausse, mais elle utilise un argument qu'on appelle un argument de récurrence. Elle pense qu'au bout d'un certain temps, la longueur est toujours la même. Donc, à l'instar de Pascal, elle va démontrer que c'est vrai pour 2 et l'étape 2 de la génération 2 et de la génération 3. Elle va faire un passage et elle va montrer que en faisant ce passage, la longueur reste constante. Donc, si c'est vrai pour le passage, par exemple, de 2 à 3 et de 3 à 4, ben, ça sera vrai pour tous les autres passages et donc, du coup, la longueur sera constante. Donc, à partir de la génération 2, toutes les générations feront 16 cm car on garde toujours la même longueur sauf qu'on rétrécit les parties. Pour la génération 1 et 2, il faut déplier les figures, mais après on essaye ce que l'on veut, ça fera 16 cm. Je vais vous démontrer que la génération 3 fait 16 cm. Chaque génération est divisée en 3 parties. Vu que la génération 2 fait 1 cm par partie, pour savoir la génération 3 fait quelle longueur, la partie on fait 1 divisé par 4. Voilà. Et vu que dans 4 parties, il y a 16 petites parties de 0,25 et qu'il y a 4 fois 16 égale 64, donc il y a 64 petites parties, on fait 64 divisé par 4 égale 16. Voilà, donc j'ai démontré que la génération 3 fait 16 cm et ce sera la même chose pour toutes les autres générations. Donc je sais pas si vous avez vu, il y a une erreur en fait dans le 1 divisé par 4 et en fait c'est 1 divisé par 3. Mais ah c'est bon. Non mais ouais. Mais c'est l'idée qui est importante en fait, c'est le vraiment la démarche. Là on est sur des procédures qui sont vraiment travaillées au lycée sur la ouais, étonnant, et d'autant qu'on l'avait pas travaillé nous par ailleurs, hein, et la famille a disparu, et là très nettement. Ouais. Et là c'était très, très, l'enjeu était très fort pour elle parce que c'était donc elle va utiliser des mots comme démonstration, et là on est bien au cœur d'une démonstration, même si elle est fausse, il y a tous les ingrédients d'une démonstration. C'est étonnant. Alors il y a deux postulats, c'est celui de Raymond Queneau, c'est en écrivant qu'on devient écriveron. Donc l'objectif c'est de les faire écrire le plus possible. Et le deuxième postulat c'est de se dire que plus on écrit, plus on favorise les chances de la réflexivité. Et donc c'est pareil, pas toujours gagné malheureusement, parce que c'est pas évident, c'est pas le seul outil qu'on a pour essayer de les faire entrer dans les apprentissages, mais on a décoincé quand même pas mal de situations pour certains élèves qui justement à force d'écrire font ce passage. Alors eux ils le conscientisent pas forcément, mais on est là aussi pour les aider à dire bah tu te rends compte, t'as vu ce que tu as fait, tu depuis le début tu disais je trace et puis là t'es en train de dire je pense. Et donc leur marquer ces passages là où sans se rendre compte parfois ils sont en train de réorienter leur pensée et de le faire en compte cette réflexivité.
On regarde.
Allez pour le plaisir. Alors c'est une jeune afghane donc qui est arrivée en France qui parlait pas français. Donc là c'est ce que je vais vous montrer c'est des écrits donc qui datent de l'année suivante, hein, quand elle est arrivée en France. Lors de son positionnement, parce qu'on positionne nos élèves nouvellement arrivés en France, elle était très exigeante. Hein, il y avait un traducteur et elle disait « Moi, je veux pas qu'il me fasse de cadeaux, il doit me dire ce qui va pas. Hein, » Donc, elle était très déterminée, on va dire, dès le départ. Et donc là, ça s'est fait en plusieurs étapes. Il n'y a pas eu tout ce que je vous ai dit avec les élèves que je vous ai montré précédemment, il n'y a pas eu autant de narration de recherche. Donc elle, ça a fonctionné tout de suite. Hein. Parfois, ça fonctionne tout de suite, c'est-à-dire qu'ils rentrent tout de suite dans les écrits sans vraiment se poser de questions. Ils le font parce qu'ils ont très envie d'apprendre. Et donc elle parlait pas mal de langues, dont le perse qu'elle écrivait. D'abord, je lui ai demandé, je lui ai dit, t'essayes d'écrire. Elle parlait bien anglais. Je lui ai dit, tu essayes d'écrire dans une langue, si tu peux en français, tu essayes. Bon, ça, je savais que ça allait pas être évident. Et donc, je lui ai dit d'abord, ben, essaye l'anglais. Et alors, on a d'abord essayé en anglais. Donc, elle avait ses traces de recherche en anglais. Et ensuite, voyant que vraiment, elle était toujours en réflexion, elle avait vraiment envie d'avancer, je lui ai dit, écoute, t'écris dans la langue que tu veux. Celle qui te convient le mieux. Et puis, tu racontes. Et puis ensuite, si tu peux, tu essaies de traduire. Où tu devais aider pour traduire et on avance ensemble. Et donc là, c'était le cube. Donc on a un cube de 10 cm d'arête, un point qu'on choisit, un sommet qui est choisi, et on cherche tous les points du cube à 15 cm du sommet. Et il y avait, donc dans le petit atelier dans lequel on travaillait, il y avait une jeune bulgare, qui a essayé de rentrer aussi dans la recherche. Et puis Auria, elle a commencé, bon, moi je l'ai invité aussi à le faire, hein, avec du fil de fer déjà, voir comment ça se passe. Et puis la jeune Bulgare a regardé la Auria, elle dit mais it's mathématique for babies. Et donc du coup petit à petit elle s'est rendue compte qu'effectivement, parce qu'elle en avait une représentation, vous voyez, très symbolique, avec beaucoup de symboles, de l'algèbre. Or effectivement, pour entrer dans ce problème-là, tel qu'il est donné, on voit pas tout de suite comment l'algèbre vient s'immiscer facilement dans cette affaire, surtout quand on est un collégien. Donc, et donc petit à petit, Auria, elle a rentré, donc elle la raconte. Vous voyez, moi je parle pas le perse, mais on voit des, vous voyez des. Elle a disparu. On voit des 15 cm, vous voyez, je sais pas si vous. Troisième étape, voilà.
Théorème de Pythagore.
L'aire du cube et puis la largeur, voilà, 15 cm carrés. Donc là, vous voyez, c'est vraiment l'idée que, avant toute chose, la narration de recherche, c'est un écrit pour l'élève. Que nous, on s'en saisisse et qu'on essaie de faire quelque chose. Ok, bon, c'est vraiment ce qu'on cherche à faire aussi, effectivement. Mais en tout cas, de mon point de vue, la narration, c'est d'abord un écrit pour l'élève. Donc, c'est complètement autorisé. Et même si parfois ça heurte un peu, ça peut heurter un peu les collègues, c'est d'abord un écrit pour lui. Donc, il peut écrire dans sa langue. Et très souvent, ça peut être une entrée très favorable. Et donc là, ça a bien fonctionné. C'est pas toujours comme ça. Mais elle a traduit. Elle a fait cet effort de traduction. Donc, pour trouver la narration de recherche. Donc, elle dit pas pour trouver la recherche. Pour l'anecdote, il y a des élèves qui marquent, ils n'écrivent pas narration de recherche en titre, ils marquent recherche de narration. On reconnaît les simultanés. Ils sont là, mais qu'est-ce que je viens pouvoir raconter? Voilà. Donc j'ai essuyé de bien comprendre la consigne. J'ai imaginé un cube de 10 cm. Enfin, bon, elle se débrouille vraiment très bien dans sa traduction. Par contre, j'ai pas accès à l'écrit en perso. Voilà, on va s'arrêter là. Alors, il y a une boîte à outils qui est construite dès la cinquième, sixième, donc qui est déjà présente, donc qui est donnée à nouveau, qui sert de répertoire. Et puis là, ouais, c'est un peu de l'initiative personnelle pour l'instant. Ouais. C'est pas évident à construire un répertoire commun. On a en fait ce qu'on a en place qui permet d'unifier les choses, mais ça reste encore. À travailler, c'est des fiches formatives pour mettre les élèves en autonomie, pour pouvoir travailler sur des théorèmes clés ou voilà. Mais en fait, l'idée aussi, c'est que dans certains problèmes ouverts qui sont donnés, certains théorèmes sont complètement inopérants. Voilà. Et donc c'est intéressant aussi de rendre compte aux élèves que tout n'est pas utilisable comme ça. C'est pour rendre compte aussi que les mécanismes, ça peut être un peu aussi dangereux. C'est-à-dire qu'appliquer comme ça mécaniquement un théorème en disant c'est ça qui va marcher, voilà. Parfois, alors il y a eu un cas par exemple. Donc il n'y a pas d'organisation, j'ai envie de dire, complètement construite sur l'élaboration d'une boîte à théorèmes. Ça pourrait être pas mal. Maintenant, ça pourrait aussi limiter les choses d'une certaine manière. Je donne un exemple. Il y a deux trois ans, il y avait un théorème qui était demandé à être étudié en classe. Donc ils l'ont abandonné, avec une histoire de pourcentage et de réunions de pourcentage. Et bon, c'était un théorème vraiment, très difficile à enseigner, parce qu'on ne voyait pas trop comment rentrer dedans facilement, et comment l'introduire, comment essayer de le découvrir, etc. Et donc j'avais mis un peu de côté, je me suis dit, bon, on verra un peu plus tard celui-là. À l'occasion d'une recherche, les élèves étaient allés piocher dans le livre. Donc des références, hein, donc ils ont le droit au livre, hein, pendant la recherche, ils ont le droit à tous les outils qui sont sous leur main. Et il y a des élèves qui se sont saisis de ce théorème, qui l'ont écrit, qui ont essayé de le comprendre, qui ont essayé de voir s'il s'appliquait au problème. Alors il s'appliquait pas très très bien, c'était pas évident, parce que c'était une histoire de pourcentage. Puis là on avait plutôt des quantités, mais vraiment ils ont fait un lien très très net. Et du coup, moi, ça me laisse dire aussi que on a beau construire des répertoires, des tas de répertoires, de toute façon, ils sont toujours débordés, ces répertoires. C'est-à-dire qu'il y aura toujours à construire d'autres répertoires. Donc, limiter un petit peu la fonction du répertoire, faire en sorte qu'ils aient aussi d'autres références. Donc ça peut être le cours, ça peut être le livre, ça peut être aussi un internet, voilà, et faire en sorte que ces répertoires soient critiqués. Soit critiqué, voilà. Alors juste valeur, c'est-à-dire qu'à un moment, un théorème, il peut être très efficace. Le théorème de Pythagore, il va bien servir à un moment donné. Parfois, il peut rien nous dire du tout et nous complètement obstruer la recherche. Alors, j'ai quelques éléments. Donc effectivement, à force de les travailler, ces narrations de recherche, il y a des élèves qui rentrent pas dedans. Et donc une des questions c'était comment faire en sorte qu'on ait un maximum d'élèves qui s'engagent dans les narrations. Donc quelque chose qui paraît évident, mais de commencer la recherche en classe déjà c'est extrêmement important. Et ensuite on a développé des stratégies de travaux de groupe. Et donc il y a des écrits où on demande aux élèves de mettre au moins une observation, une remarque, et essayer d'interagir avec les autres élèves. Donc ils sont pas petits groupes et on a des retours. On peut leur demander hein, un scénario possible. Ça peut être de leur demander en petits groupes de dire bon ben les grandes idées ils ont pu commencer à travailler dans leur travaux de groupe. Et on voit parce que la narration de recherche c'est vraiment une dimension intrapersonnelle. Vraiment, c'est encore une fois, j'insiste vraiment sur cette dimension. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on fait ces travaux de groupe enchaînés avec une narration de recherche qui va suivre, on voit des effets, des suites, c'est-à-dire des élèves, alors certains qui vont pas du tout saisir des travaux de groupe, donc ça va passer à la trappe, c'est pas quelque chose forcément à raconter pour eux, et donc ils vont raconter comment ils ont fait. Par contre, il y en a certains qui vont dire. Dans le groupe, avec un tel, on a dit ça, etc. Et donc on voit effectivement, parce que les écrits dans les travaux de groupe sont très proches de l'oral. En tout cas sur les premiers écrits de travaux de groupe qu'on démarre avec les élèves. C'est-à-dire que c'est très proche de ce qu'ils peuvent se dire entre eux. Et petit à petit, bon pareil, il y a des comptes rendus qui sont corrélés, j'ai envie de dire, aux narrations de recherche. Les travaux de groupe évoluent. Et on voit des élèves, par exemple, qui changent de statut, c'est-à-dire qui commencent à dire, par exemple, un tel a dit une conjecture, ou alors un tel a fait des constats ou des hypothèses, ou un tel expérimente. Et on commence à avoir des élèves qui, petit à petit, changent aussi de registre dans leur rôle au niveau interpersonnel. Voilà, mais c'est... Alors, comme je le travaille, c'est deux temps. Je veux dire, d'abord des narrations de recherche, on fait sur 2 mois pour travailler cette dimension d'abord intrapersonnelle, et ensuite j'introduis les travaux de groupe un peu plus tard pour rajouter encore une dimension. Alors, en mathématiques, il y a une autre entrée donc qui est une autre entrée que l'écrit, c'est tout ce qui est schématisation, figuration, dessin. Et comme je disais en tout début de travail, c'est une narration en tant que telle. C'est-à-dire qu'il les aide, nous raconte vraiment quelque chose dans la façon dont ils lisent une figure. Par exemple, sur l'histoire de la fractale, il leur a été demandé d'abord de construire, et il y avait peu d'énoncés en fait. Hein. On leur donnait quelques figures, et on leur disait bon ben comment construiriez-vous ces figures pour qu'elles soient les plus fidèles à ce qui est présenté. Et il y a des tas d'entrées possibles. Il y a des élèves qui vont... Alors là, c'était vraiment le flocon, donc en entier, hein, qui ressemblait à une espèce d'hexagone avec plein de pics. Et vous avez des élèves qui vont rentrer de l'intérieur. Il y en a qui vont passer par le contour. Donc il y a vraiment une lecture de la figure qui est pas verbalisée par de l'écrit, mais qu'on repère dans les tracés, dans les traits qui sont gommés, etc. Donc il y a vraiment quelque chose qui sont racontés. Alors, ma foi, des fois c'est pas toujours évident. Le flou peut persister pendant un petit moment, surtout quand les élèves rendent pas forcément leurs travaux et que voilà, on est en attente, etc. De voir un petit peu ce qu'ils produisent. Des fois, les deux peuvent être cumulés, donc il y a deux obstacles face à eux. Ça, c'est tout à fait possible. Mais là, j'ai l'exemple, par exemple, d'une élève turque qui parlait pas. En classe, elle vraiment ne disait rien. Elle était très choquée parce que quand elle arrivait en France, elle a perdu toutes ses amies qui étaient en Turquie. Et voilà, elle arrive en France, vraiment très peu d'amis, pas du tout, quasiment. Et silence radio, elle ne parlait pas en classe. C'était extrêmement difficile d'accéder à l'oral avec elle. L'écrit, c'était pas simple non plus, hein. C'était un peu mieux que l'oral, mais c'était pas simple. Et elle, ça a été vraiment un travail de très longue haleine, où on est rentré par les figures, justement. C'est-à-dire que les premières narrations qu'elle a rendues, c'était des figures. Il n'y avait quasiment aucune trace d'écrit. Et le travail qu'on a pu mener avec une professeure de FLE, c'était de commencer à décrire ces figures. Et comment elle s'est prise pour construire ces figures. Hein, oui, un peu comme on l'a fait avec... Enfin, elle l'a fait naturellement, mais avec Cindy, où elle dit « j'ai tracé », etc. Et petit à petit, ben, ça s'est étoffé, et elle a écrit beaucoup plus. Donc l'oral, on l'avait presque toujours pas. Hein. C'est quelque chose qu'on a eu du mal à conquérir, j'ai envie de dire. Mais l'écrit est venu petit à petit. Et ensuite, moi, il s'avérait qu'elle était plutôt douée en algèbre, en fait. Et elle rentrait très facilement dans l'algèbre. Et ça, c'était très net. Voilà. Donc voilà, c'est des entrées qui permettent de révéler certaines choses. Et là, je rejoins ce que disait notre collègue. Effectivement, c'est toujours cet aspect construire du positif, faire émerger une compétence et puis la développer le plus possible pour que l'élève revienne sur des compétences où il est moins à l'aise. C'était le cas par exemple d'un dyslexique qui en mathématiques vraiment beaucoup d'initiatives, il se lançait énormément d'idées très originales. L'écrit était avec des tas d'erreurs d'orthographe, des erreurs de syntaxe, etc. Mais à force d'écrire, bah, on voit une progression. Alors bien sûr, il y a eu des séances orthophonistes. Hein, la narration pallie pas à cette aide-là, mais il y avait vraiment une progression. Et lui, pareil, hein, c'est des écrits au début très très chiches. Puis dès qu'il a compris que tout était autorisé, qu'on pouvait vraiment libérer sa pensée, essayer des choses, analyser, alors là, il écrivait. À tel point qu'on avait fait un rallye, un petit concours mathématique au collège. Sur 500 élèves, il y en a 10 ou 15 qui ont répondu. Donc ça a moyennement marché. Et c'est un élève qui a produit, par exemple, 4 feuilles d'explication, alors que c'était, j'ai envie de dire, complètement gratuit. Enfin, je veux dire, il y avait pas d'enjeu autre que le concours lui-même. Peut-être pour ça qu'il y avait qu'à 15.
Bon, une dernière
question,
puis on va s'arrêter.
Oui, alors il y a les travaux de groupe tels que je l'ai énoncé, mais là aussi, j'ai pas accès à ce qui se passe dans le groupe, voilà, puisque ça se passe entre eux.
C'est très spontané.
J'ai des bribes, j'ai ces fameuses traces, ces observations qui sont laissées sur le papier. Moi, je les invite ensuite à développer, hein, c'est-à-dire à essayer d'interagir. Par exemple, dans les premiers travaux de groupe, vous avez des élèves qui vont écrire « j'ai remarqué que le cube était creux », par exemple. Faut-il utiliser un logiciel ? Vous avez des choses comme ça, très une espèce d'agrégat comme ça de remarques. Et petit à petit, donc ça aussi, on les encourage. Il y en a qui le font déjà naturellement dès le départ. Vous allez avoir des élèves qui interagissent, c'est-à-dire qui vont se saisir vraiment d'une question, par exemple, d'un élève dans le compte-rendu. Mais parfois, ils s'en saisissent à l'oral, dans le groupe, mais ils s'autorisent pas à l'écrire. Ils disent, c'est peut-être pas la peine de l'écrire, ce qu'on vient de dire. C'est pas très important, vous voyez. Donc, il y a des tas de choses comme ça qui sont évacuées par les élèves qui n'est pas cerné comme quelque chose d'important. Mais c'est vrai que ça demande une analyse didactique quand même de la situation, parce que pour sortir aussi de l'enclave de la solution unique, magnifique, bien tournée, proposer des problèmes où plusieurs solutions sont possibles, ou alors une modélisation différente est possible dès le départ, plusieurs cheminants, ça écrase complètement ce problème, en fait, parce que je donne l'exemple, une croix grecque, enfin, ou croix suisse, ou ce que vous voulez, mais composée de 5 carrés, hein, vous voyez. Et on demande aux élèves de la partager en parties de même R. Donc, on peut demander que en 3, par exemple, mais on peut demander en 4, en 10, en 100, en ce que vous voulez. Alors, il est très amusant ce problème, parce que pour 4, c'est très facile, pour 5, c'est très facile, pour 3, ça coince pas mal, en fait. Et donc, il n'y a pas une suite logique de nombres pour lequel c'est facile de découper. Il y a des nombres comme ça qui, comme des trous, un peu comme pour les nombres premiers, on ne sait pas très bien ce qui se passe, il y a des trous. Et je raconte ça parce que, du coup, même dans les stratégies de découpage, il y a des tas de possibilités de découpage. Donc vous mettez jamais vraiment l'élève en échec, parce que il y a des tas d'ingéniosités à imaginer. Donc voilà.